Il est 9h41 sur France Inter, à un instant M, tout en bulle et en papier.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Gaston Lagaffe a 60 ans et à son époque, c'était l'âge canonique qu'il espérait ne jamais atteindre. Au-delà du héros de BD aux 30 millions d'albums vendus, Gaston est né dans les pages du journal de Spirou, dont il ne fut pas seulement un personnage, mais aussi un employé. Il y a exercé tous les petits boulots et à travers Prunelle, Moiselle Jeanne et Fantasio, c'est toute la vie d'une rédaction qui nous est racontée dans ses bulles avec une sacrée liberté. Bonjour Christelle Pissavi.
Bonjour.
Soyez la bienvenue avec votre époux Bertrand. Vous êtes les auteurs d'une véritable histoire de Spirou chez Dupuis, où vous êtes également tous les deux éditeurs. Vous êtes en charge des archives et du patrimoine. Vous lisez le journal de Spirou depuis que vous êtes gosse. Bon bref, vous en avez fait un métier. C'est une très belle histoire. Il y a une expo à Paris aussi. On va vous parler de Gaston, de ses engagements politiques, des bestioles qu'il a fait entrer au journal. Avant cela, un autre genre d'hommage au règne animal avec vous, Bruno Donnet. Salut Bruno.
Bonjour, je ne ferai aucun commentaire.
Le cri de la girafe, non ?
Non plus.
Non plus.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Alors c'est une première dans l'histoire de la 5e République, un débat de premier tour. Voilà, pas de l'entre-deux-tours, mais de premier tour, réunissant les principaux, voire tous les candidats à la présidentielle. TF1 voudrait en programmer un le 20 mars, France 2 le 23, d'où l'idée de la chaîne publique de proposer à son homologue privé de faire débat commun, une soirée codiffusée sur les deux antennes. TF1 n'a pas encore répondu, tous les candidats non plus. On retiendra de cette initiative quel est le fruit du succès des débats liés aux primaires, période où la bonne vieille télé, il faut dire ce qui est, semble avoir repris ses droits. Alors, dimanche soir, Bruno, vous avez regardé Zone Interdite sur M6 et vous nous dites ce matin que vous avez encore un peu mal au crâne, c'est ça ?
Oui Sonia, j'ai chopé un mal de crâne carabiné à cause des commentaires. Car figurez-vous que dimanche soir, la présentatrice de Zone Interdite avait choisi de délaisser les flics de la BAC, les légionnaires, les jet-setters et même les péripatétiputes pour se rendre au zoo.
Ce soir, nous vous proposons des images exceptionnelles. Nos caméras se sont installées dans 4 des plus grands zoos de France pour capter des naissances de bébés animaux.
Des bébés animaux. Du coup, vu qu'elle n'était pas tout à fait dans son environnement habituel, elle a passé toute l'émission à faire des commentaires, de la voix off non-stop pour tenter de créer des enjeux, du suspense, là où il n'y en avait absolument pas et où on aurait pu... pour une fois, regarder Zone Interdite peinard avec même les gosses sur les genoux. Alors, son truc à elle pour essayer de nous tenir en haleine, c'était de nous expliquer que la naissance d'un animal, eh ben, ça peut très mal finir parce qu'il peut mourir. Elle nous a donc fait le coup avec les lions.
Pour le lionceau, les prochaines nuits seront décisives.
Avec les ânes ?
Chez les ânes, la mise bas est un moment à risque. Sans l'aide des humains, la plupart du temps, elle se termine mal.
Et même avec les oiseaux.
Car ce n'est pas parce que le bébé sort d'un œuf que la naissance n'est pas risquée.
Voilà, et vous savez pourquoi que c'est risqué une naissance de piaf ? Non, eh ben écoutez bien.
Car si l'oisillon dispose d'une petite poche d'air pour respirer, il pourrait manquer de force et rester bloqué dans son œuf.
Parce qu'il peut s'asphyxier, madame, oui, oui, un grand péril qui menace aussi les ânes.
Il y a un fort risque d'asphyxie de l'ânon.
Et les girafes.
Le temps joue contre le nouveau-né. Bloqué dans l'utérus, il pourrait s'asphyxier.
Voilà, alors dans cette émission, non seulement la voix off ne s'arrête jamais, mais en plus, elle passe son temps à vous seriner sans cesse les mêmes fadaises pour essayer de vous flanquer les jetons avec une apothéose qu'il faut absolument que je vous fasse entendre. Écoutez bien, on est dans un parc qui abrite des girafes. Un girafe, on vient de naître, il ne s'est pas asphyxié, rien du tout, hein, tout va bien. Et la fille balance ça.
Mais rien n'est encore joué. À peine né, le girafon doit marcher le plus vite possible pour pouvoir se nourrir et échapper aux prédateurs.
Aux prédateurs qui a dit non mais attends, on est dans un zoo. Ils sont où les prédateurs dans un zoo ? Et puis d'abord, c'est qui ces brutes assoiffées de sang de girafon ?
Les Watusi, des bovins d'Afrique de l'Est, commencent à rôder autour du nouveau-né.
C'est des bovins, des ruminants, des vaches quoi, hein, qui sont donc menaçantes que pour les brins d'herbe qu'elles boulottent tranquillou à longueur de journée. Bref, vous l'aurez compris, dans Zone Interdite. Quand il n'y a pas de situation anxiogène, quand tu crois que tu vas pouvoir regarder sereinement les animaux du monde, eh ben, y a une voix off insupportable qui se croit obligée de te faire flipper, car dans cette émission, les commentaires, c'est comme les torrents de mièvrerie qu'il charrie.
Ça s'arrête jamais en fait.
Ça s'arrête jamais.
Ça s'arrête jamais. Ah non. Qu'est-ce qu'il aurait dit Gaston ? Merci beaucoup Bruno.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Alors, on allait parler de Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, c'est 30 millions d'albums vendus, 900 planches dessinées, 19 tomes traduits en 16 langues nationales et 8 langues régionales. Donc c'est quand même un phénomène quasi planétaire. Alors, Christelle Pissavi-Vernot, où en est le journal de Spirou à la naissance de Gaston Lagaffe ? Parce qu'on est en février 1957. L'année précédente, on vient juste de voir naître Gilles Jourdan. Et l'année suivante, Peyo y invente les Schtroumpfs. Ça ressemble à une espèce d'âge d'or, non ?
C'est vraiment le développement de l'âge d'or, exactement. Ouais. Yvan Delporte est officiellement rédacteur en chef du journal de Spirou depuis 2 ans. Mm-hmm. Et ce type-là est fou. Il est totalement...
Vous lui avez consacré hein, une anthologie avec votre
300 époux. Pages, ouais. Il fallait bien ça.
Mais... Personnage incroyable, incroyable.
Oui, avec une vie, il ne faisait que ce qui l'amusait ouais. et comme il le voulait. Ouais. C'est vrai que chez Dupuis, c'est ce qu'il nous disait, il disait oui, monsieur Dupuis. Et puis il en faisait qu'à sa tête. C'est comme ça que le journal de Spirou a vraiment vécu un âge d'or à la fois dans l'esprit, mm-hmm. justement, parce que tout y était possible. Et il avait une façon aussi d'écouter les auteurs, les dessinateurs, de les aider à faire naître leurs idées qui étaient incomparables. Alors, et c'est comme ça qu'avec Franquin, justement, est né Gaston Lagaffe.
Et né Gaston Lagaffe, il faut quand même dire que... Le journal de Spirou est quand même né bien longtemps avant. Hein. C'est un titre de l'entre-deux-guerres. C'est Jean Dupuis lui-même qui ouais. lui a donné vie en Belgique près de Charleroi. Et ce qui est passionnant dans la naissance du journal de Spirou, c'est qu'on a l'impression que c'est une contre-offensive à la presse pour enfants et à la bande dessinée américaine. Mais à laquelle exactement ?
En fait, le journal de Spirou a été créé parce que Jean Dupuis ne voulait pas que ses petits-enfants, il était grand-père à l'époque, il avait déjà fondé 2 journaux qui marchaient très 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 bien en Belgique, et il voulait pas que ses petits-enfants lisent une certaine bande dessinée qu'il jugeait douteuse sur le plan moral. Mm-hmm. Donc il a créé le journal de Spirou, c'était une entreprise familiale. Il y a eu un premier rédacteur en chef qui s'appelait Jean Doisy, qui est un héros, ce type était beaucoup moins fou que Yvan Delporte, mais tout aussi dynamique. C'est lui qui a créé Fantasio, c'est-à-dire qui était le premier, c'était la première fois qu'il y avait une mise en abîme de la rédaction dans le journal de Spirou.
C'est parce ça, que... le journal raconté à l'intérieur du journal.
Ouais, c'est ça, parce que Jean Doisy était un rédacteur en chef qui était, qui se voulait éducatif pour les enfants. Mm-hmm. Mais il voulait quand même qu'il y ait de la fantaisie. C'était aussi la demande.
Fantasio, on peut le raconter. C'est un ancien journaliste People, grand reporter, prêt à tout pour avoir des scoops, assez vantard, caractériel.
Pas au départ. Non, au départ, il est là. Il a une rubrique dans le journal de Spirou. Mm-hmm. C'est Voyez-vous les erreurs. Et donc, il fait des articles et les lecteurs doivent trouver les fantaisies qu'il y a mises. Et donc, il est là, Fantasio, pour déstabiliser le ton trop didactique du journal. Et 20 ans plus tard, ouais. Franquin le récupère, justement, il a déjà entre-temps récupéré dans Spirou et Fantasio, mais il le récupère dans Gaston Lagaffe, justement, mais du coup, Fantasio change de rôle. Voilà. Parce que et face à un animal comme Gaston, forcément...
Tout le monde change de rôle, de toute façon, oui, face à un animal. C'est ça ou les antidépresseurs.
Exactement.
C'est ça. Mais c'est absolument passionnant, parce qu'on voit bien qu'au moment où naît le journal de Spirou en Belgique et en France, y a DC Comics qui se crée aux États-Unis. Hein. Finalement, Batman et Superman sont exactement ses contemporains. Et puis, c'est la naissance du journal de Mickey en 1934. Donc, c'est vraiment une période totalement foisonnante pour ces années-là. Alors, nous, on revient aux années 60, parce que, justement, Gaston est né en 57. Quand même, hein, 180 000 exemplaires en France, 90 000 en Belgique. Ça va décroître petit à petit après, au cours des années 70. Je vous propose d'écouter Yvan Delporte.
Il est arrivé, il a dit, écoute, Yvan, tous les personnages de bande dessinée ont un métier. Lucky Luke et Cowboy, Luc Dernier est aviateur, moi je voudrais faire un héros sans emploi. Et on a mis au point un système par lequel Gaston arrivait sans un mot d'explication. Il y avait un bonhomme dans le milieu d'une page, c'est tout. Et la semaine suivante, ce bonhomme était toujours là, mais plus relax. Et la semaine d'après, il était Gaston.
Dites donc, un héros sans emploi dans une entreprise, ça aussi c'est toute une époque aujourd'hui, surtout dans un journal, c'est dehors.
En fait, l'extrait que vous avez choisi, pour moi, il fait référence à plein de points différents. Mm-hmm. C'est-à-dire que d'abord, chez Dupuis, ça se passait comme ça. C'était une entreprise familiale. Vous passiez par le curé de la paroisse pour trouver un emploi à votre petit dernier ou au petit cousin, etc. On l'embauchait et la réponse était on lui trouvera bien une place. Mm-hmm. Donc qu'il se présente. Donc ils ont été des centaines et des centaines à se présenter chez Dupuis
un jour qui a poussé la porte.
Donc ça fait partie de l'histoire du journal de Spirou, des éditions Dupuis. Et ce qui m'amuse quand j'entends Delporte raconter ça de Franquin, qui disait que moi j'aimerais créer un personnage sans emploi. Ce qui est amusant, c'est que Franquin, à tous les petits jeunes qui venaient le voir, mm-hmm. il disait d'abord votre héros doit avoir une place dans la société.
D'accord. D'où ces héros de bande dessinée, l'un qui est aviateur, l'autre qui est détective, le troisième qui est cow-boy, etc. On a une fonction sociale.
Ouais, mais là, il a pris le contre-pied de ce qu'il a enseigné pendant des années et des années après à tous les jeunes dessinateurs. Et donc, c'est ça justement qui est intéressant, c'est que...
C'est passionnant. Et puis ce que raconte Delporte aussi, c'est-à-dire que ce héros sans emploi va apparaître dans le journal sans crier gare. D'abord, ce sera des traces de pas. Simplement laissé dans la marge du journal, pas un mot d'explication, prolifération de traces de pas pendant plusieurs semaines. La première fois qu'il pousse la porte du journal, donc on l'a dit, il avait même une cravate le premier jour, Gaston, une veste, une chemise blanche et des mocassins. Ça quand même il faut le préciser. Là aussi il est muet. Pas de titre. Et puis, il faut attendre quelques jours pour que Fantasio lui-même se fende d'un communiqué. Et je vous le lis. Attention, depuis quelques semaines, un personnage bizarre erre dans les pages du journal. Nous ignorons tout de lui. Nous savons simplement qu'il s'appelle Gaston. Tenez-le à l'œil. Il m'a l'air d'un drôle de type.
Justement, on sait rien de lui, dit Fantasio, mais c'est pas vrai. Parce que deuxième apparition, je crois, il commence par enlever son nœud de cravate. Et ça, on est un 57, quand on se présente chez un patron, on s'habille bien comme il l'a fait, mais on se tient à carreau. Et lui, dès qu'il arrive, très rapidement, il se met à l'aise, il s'installe, il allume une cigarette, personne ne lui a rien demandé, et il est à l'aise. Et là, je trouve que c'est la première information d'insolence. Gaston et de Franquin.
Alors
et
on va écouter justement Franquin parler de ce fameux col roulé vert.
Gaston Lagaffe, il est un peu comme un légume. Il n'a jamais eu le courage de se tenir vraiment droit. Il est un peu comme le jeune à qui on dit « tiens-toi droit ». Et il se tient très penché par paresse. Bon, il est très paresseux pour aller chez le coiffeur, je crois, parce qu'il a une tignasse épouvantable. Il ne fait aucun frais pour la toilette parce qu'il a toujours son pull vert depuis quelques bonnes années. Ouais. Et un vieux jean. Et il a...
Un nœud papillon ?
Il a eu une fois un nœud papillon quand il s'est présenté au journal, je crois, c'est la seule fois.
Et pourquoi le pull vert tout le temps ?
Parce qu'il est facile, un col roulé, de faire pendre la tête du personnage vers l'avant.
C'est génial.
C'est graphique.
C'est extraordinaire comme histoire. On va d'abord dire un mot de cet anticonformisme de Gaston.
Et justement, je suis convaincue que Gaston n'aurait pas pu naître ailleurs que dans le journal de Spirou.
Pourquoi ?
Parce que justement, il y avait une fantaisie qui était sinon tolérée, au moins encouragé. Vraiment.
Donc une liberté de ton absolument extraordinaire.
Ouais, chez Tintin, par exemple, c'était pas possible. Ça, tout le monde, que ce soit les employés ou les personnages, tout le monde devait être tiré à quatre épingles, irréprochable. Il y avait d'ailleurs un cahier des charges très strict, un petit cahier qui existait à l'intention du personnel, qui devait être extrêmement performant, etc. On était vraiment dans l'entreprise hyper cadrée. Et chez Spirou, c'était la folie, mais avec un rédacteur en chef comme Yvan Delporte. Évidemment, c'était la folie.
Alors ça donne un personnage beatnik, anarch, non-conformiste, un rêveur, un gentil en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire d'être anti-militariste au début des années 60 dans les pages du journal de Spirou?
C'était compliqué, et c'est d'ailleurs ce qui vaudra le renvoi d'Yvan Delporte en 68, parce que, à force de faire des gaffes à la Gaston, parce qu'il faisait vraiment des gaffes à la Gaston, il était ce qu'on appelle ingérable aujourd'hui, mais tellement agréable, il y avait dans le journal toute une série de publicités pour l'armée, et c'était insupportable pour Franquin, insupportable pour Delporte, pour un tas d'auteurs du journal, et Delporte a eu l'idée de faire une contre-publicité. et c'était engagez-vous dans la marine belge avec il a fait ça en plusieurs temps. Il y avait aussi tout un slogan sur l'avenir qui attendait les jeunes engagés. Puis mm-hmm. on mettait des photos de cimetières, etc.
Mm-hmm. Et bah oui, on imagine. Et
évidemment, il s'est fait virer parce que l'armée a demandé réparation, etc. Bah oui.
A demandé sa tête tout simplement. Alors il faut quand même dire que j'ai lu. Confirmez-moi si c'est vrai ou pas, parce qu'après je l'ai pas retrouvé dans les planches. Gaston Lagaffe se serait fait virer lui aussi une fois par Monsieur Dupuis en personne, qui serait tombé nez à nez avec une vache que Gaston Lagaffe aurait introduit dans les locaux du journal.
Alors ça, c'est pas dans les planches de Gaston Lagaffe, parce que Gaston a eu une autre vie
oui.
Ailleurs que dans les planches. C'était dans les pages du journal, parce que Delporte,
c'est ça,
justement,
dans les pages du journal,
justement, a récupéré ce personnage formidable, cet alter ego, pour être un peu son prétexte pour faire des gaffes et une animation. Elle a fait des animations sur plusieurs semaines avec Gaston Lagaffe, dont par exemple la vache à la rédaction. C'est parti d'une campagne publicitaire pour le lait, buvez du lait. C'était les Brigades M en Belgique. Et donc, ils avaient imaginé tout un concours et le gros lot était une vache à gagner.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est la mise en scène de cette rédaction à travers la plume de Franquin. Léon Prunel, barbu, lunettes, pipe prendra la suite de... Alors lui, il passera son temps à pourchasser Gaston pour le mettre au boulot et l'empêcher de rêvasser. Yves Lebrac, dessinateur du journal, on voit même les planches d'Yves Lebrac apparaître au cœur des planches de Franquin. Moiselle Jeanne, c'est l'archiviste des éditions Dupuis, c'est un petit peu votre ancêtre en réalité. Aimé de Messmaker, il y a un homme d'affaires, il y a un patron de presse qui voudrait racheter le journal de Dupuis, de Spirou et qui n'y arrive jamais.
Oui, mais justement, ce qui est amusant en plus, c'est que ce sont des modèles, ils ont tous des modèles. Par exemple, Monsieur Boulier, le comptable,
oui.
C'était le vrai comptable des éditions Dupuis.
Ah.
Il s'appelait Monsieur Arc, il avait les doigts crochus, extrêmement, extrêmement radin, qui épluchait toutes les notes de frais, etc. Et Franquin a eu de gros problèmes avec lui et il l'avait
oui,
en horreur. Et on voit ce qu'il en a fait avec Monsieur Boulier.
Et quelqu'un qui bosse pas dans un journal, c'était mieux que la revue des Deux Mondes. Hein.
Merci beaucoup, merci pour votre visite. Je rappelle que l'expo Centre Georges Pompidou, Gaston, au-delà de la gaffe, elle dure jusqu'au 10 avril et qu'elle est gratuite, que la véritable histoire de Spirou, c'est en 2 volumes, mais que vous allez en publier en 3e, et que Yvan Delporte, rédacteur en chef, c'est justement cette anthologie qui est consacrée à ce doudingue de la BD. C'est la fin de l'émission, bonjour Ali Rebé.
Bonjour Sonia de Villers. Est-ce que Gaston Lagaffe fumait du cannabis ?
Entre les cases, oui.
Entre les cases.
Sans doute.
La question ce matin dans Grand Bien vous fasse, la dépénalisation
de Gaston Lagaffe.
Non, de la consommation de cannabis à usage récréatif ou thérapeutique est-elle inéluctable ? Nous recevons deux addictologues ce matin. Vous pouvez appeler au 01 45 24 7000 et par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com.